Bonjour et bienvenue dans la quatrième dimension. Aujourd'hui, les contes du monde arabe de Jean Musy. Dans le Moyen-Orient en particulier, le conte a un rôle très important à tenir dans la vie quotidienne des tribus bédouines. Il se doit de traduire le poids de la religion, des croyances, grâce à une écriture simple et un langage pouvant être compris par tous. Il accompagne chaque tribu dans leurs errances solitaires, au milieu des dunes de sable, et peut-être méditer longuement. L'ermite du Yémen. Une jeune femme, droite, bonne et pieuse, avait des cheveux de jais qui ondulaient sur ses épaules et coulaient jusqu'à sa taille. Ses yeux noirs pétillaient d'intelligence. Sa bouche en cœur découvrait en s'entrouvant des dents éclatantes. Ses traits étaient si fins et son visage si ensorcelant que les rares hommes qui avaient pu l'entrevoir le comparaient à un fruit d'or inaccessible. Un jour, son mari décida de partir en pèlerinage à la Mecque. Il confia la jeune femme à son frère. Homme sans grande noblesse d'âme, en le priant de veiller sur elle jusqu'à son retour. Le frère prit soin de la jeune femme. Plusieurs semaines s'écoulèrent durant lesquelles il ne la laissa manquer de rien. Mais elle était si belle qu'il en tomba amoureux. Incapable de se dominer, il déclara sa flamme à la jeune femme. Choquée, celle-ci le repoussa plusieurs reprises et refusa tous les cadeaux qu'il voulait lui faire. « Est-ce ainsi, lui dit-elle, que tu témoignes ta loyauté envers ton frère ? Tu devrais avoir honte de lui faire une telle offense. Ne possèdes-tu donc vraiment aucune dignité ? » Ce discours est ridicule, répondit l'homme. Si tu persistes à me repousser, je ruinerai ton honneur. Je ne crains rien, répliqua-t-elle. L'homme eut peur que la jeune femme racontât ce qui s'était passé. Aussi acheta-t-il le témoignage de quatre hommes qui affirmèrent qu'elle avait commis l'adultère. Le cadi, le magistrat musulman, estimant posséder des preuves suffisantes, ordonna qu'on la fît lapider. On l'amena hors de la ville pour exécuter la sentence. Blessé par les nombreuses pierres que la foule fanatisée lui lançait, la jeune femme chancela avant de s'évanouir. On pensa qu'elle était morte et on l'abandonna sur le lieu de la lapidation pour que son cas serve d'exemple. La nuit tombée, elle reprit connaissance. Un homme, monté sur un chameau, vint à passer par là. Entendant des gémissements, il mit pied à terre et s'approcha de la jeune femme qui gisait sur le sol. « Ô femme, que t'est-il arrivé ?»« Je suis à bout de force, » répondit-elle. « Mon nom est Baha, » dit l'homme, « je vais t'aider. » Il la fit monter sur son chameau et l'amena rapidement chez lui. Aidé de son épouse, il la soigna durant plusieurs semaines, au cours desquelles elle se rétablit progressivement. Alors ses charmes réapparurent. Son teint redevint pareil à la fleur du grenadier, tandis que s'effaçaient les traces de ses cicatrices. Découvrant sa beauté, Baha prit conscience qu'elle exerçait sur lui une très forte attirance. « Accepte de devenir ma seconde épouse, » lui proposa-t-il. « Je suis mort. Unis-toi à moi afin de me faire ressusciter. »« J'ai déjà un mari, » objecta-t-elle. « Comment pourrais-je en prendre un second ? Tu m'as recueilli et soigné. Pourquoi ternir ton acte de charité ? J'ai subi la lapidation pour avoir repoussé un homme malhonnête. Je préférerais mourir plutôt que d'avoir à subir la moindre flétrissure. » Touché par tant de droiture, Baha décida de considérer la jeune femme comme une sœur. Et il se repentit d'avoir eu de telles pensées. Mais Baha possédait un esclave noir. Dès que celui-ci eut l'occasion d'apercevoir le visage de la jeune femme, il en tomba amoureux. Subjugué, il décida de lui déclarer sa flamme. « Je ressemble à la nuit, » lui dit-il. « Et toi, tu ressembles à la lune. Pourquoi ne pas nous unir ?»« Jamais je n'accepterai, » répondit-elle. « Ton maître m'a fait la même proposition et j'ai refusé. Comment pourrais-je prendre la tienne en considération ?» Pourquoi me repousser, dit l'esclave. Tu ne te débarrasseras de moi qu'en me délivrant de ma passion. Si tu t'obstines à refuser, je concevrai un plan qui te fera chasser de la maison. Si telle est ma destinée, dit-elle avec fatalisme. L'esclave jura qu'il se vengerait. Guidé par une haine folle, il se leva une nuit, prit un poignard et blessa dans son berceau le jeune fils de son maître. Puis il cacha l'arme ensanglantée sous l'oreiller de la jeune femme et alla se recoucher, sans faire le moindre bruit. À l'aube, la mère de la victime se leva pour allaiter son enfant et le trouva baignant dans son sang. Elle se mit aussitôt à hurler. Ses cris, ses lamentations éveillèrent toute la maison. On rechercha l'auteur du crime. Très vite, le poignard ensanglanté fut découvert sous l'oreiller de la jeune femme. Et elle fut reconnue coupable. Elle eut beau crier son innocence. La mère et l'esclave la rouèrent de coups. Bah a dû les arrêter, car ils auraient fini par la tuer. Il enferma alors la jeune femme dans sa chambre, puis il conduisit son fils chez le médecin, qui réussit à le sauver. À son retour, il décida d'interroger la jeune femme. Quel mal t'avais-je fait pour que tu en arrives à cette extrémité? Lui demanda Baha. Pourquoi as-tu tenté d'assassiner mon fils? Allah t'a doté d'intelligence, répondit-elle. C'est pour t'en servir, mon frère. Tu m'as recueilli, soigné et considéré comme ta sœur. Crois-tu vraiment que pour te remercier de ta bonté et de ta générosité, j'aurais tenté d'assassiner ton fils? Réfléchis. Comment aurais-je pu en arriver là? Et si j'avais commis ce crime, ô Dieu, aurais-je conservé le poignard sous mon oreiller? Baha, qui était un homme sensé, fut persuadé de l'innocence de la jeune femme. Mais il estima qu'elle ne devait pas demeurer plus longtemps dans sa maison. Pardonne-moi d'avoir douté de toi, dit-il. Tu conserves ma bienveillance, mais mon épouse est persuadée de ta culpabilité. Ta présence sous notre toit va lui être intolérable. Il est donc préférable que tu quittes la maison. Il lui donna 500 pièces d'argent et elle partit. Le cœur meurtri, elle chemina longtemps avant d'arriver dans un village. Une potence était dressée sur la place publique, autour de laquelle se pressait une foule nombreuse. Ce jour-là, un jeune homme attendait tristement d'être pendu. Quel crime a-t-il commis? Demanda la jeune femme en s'approchant du gibet. Aucun, répondit un villageois. Alors pour quelle raison veut-on le pendre? Ce village, lui expliqua une vieille femme, est sous l'autorité d'un émir dont l'injustice est sans pareille. Celui qui se trouve dans l'impossibilité de payer ses impôts est systématiquement condamné à la pendaison. Ce jeune homme va donc être pendu pour n'avoir pu en régler le montant. Puis-je connaître le montant de ses impôts? 500 pièces d'argent. Tu as été sauvé de la lapidation, pensa alors la jeune femme. Tu dois à ton retour aider ce malheureux. Si je payais le montant de ses impôts, poursuivit-elle, serait-il libéré? Oui, sur le champ, répondit un vieillard. Sans hésiter, elle remit les 500 pièces d'argent que Baha lui avait données, et le jeune homme fut libéré. Elle n'avait plus un sou en poche, mais cela lui était indifférent. Elle reprit la route sans tarder. Souhaitant la remercier, le jeune homme décida de la rattraper. Lorsqu'il fut près d'elle et qu'il eut aperçu son visage, il en tomba aussitôt amoureux. Il l'accompagna en lui déclarant sa flamme. « Mais malgré son obstination, il ne put fléchir la jeune femme qui le repoussa. Pourquoi m'avoir sauvé de la potence? Finit-il par s'écrier. Je ne souffrirais pas si j'avais été pendu. Après ce que j'ai fait pour toi, lui dit-elle, tu as une curieuse façon de me remercier. Tu as pris mon cœur, répondit-il, et je ne puis me résoudre à renoncer à toi. N'insiste pas, dit-elle, c'est inutile. Le jeune homme continua pourtant à la suivre jusqu'à leur arrivée dans un petit port où un bateau lourdement chargé se trouvait à quai. Réalisant qu'il n'obtiendrait rien de la jeune femme, ce dernier interpella un des marchands se trouvant à bord du navire. « Je possède, lui dit-il, une très belle esclave, dont le seul défaut est l'indocilité. Je ne supporte plus son indiscipline et souhaiterais la vendre. Si tu la veux, elle est à toi. » Gare à toi, dit alors la femme au marchand. N'accepte pas ce marché. Je suis mariée et n'ai jamais été esclave. Mais le marchand ne l'écouta guère. Il l'acheta pour 200 pièces d'argent et la fit monter sur le bateau en la rudoyant. Puis le navire quitta le port. Une fois au large, le vent souleva soudain le voile que portait la jeune femme, et l'inévitable arriva. Le marchand aperçut son visage et en tomba lui aussi amoureux. Il se rapprocha d'elle et lui déclara sa flamme. La jeune femme protesta vivement, comme le marchand insistait. Elle décida de demander leur aide aux marins. Au secours, hurla-t-elle. Surpris, les marins s'approchèrent pour voir ce qui se passait. Je suis musulmane. « Comme vous tous, leur déclara-t-elle. Je suis une femme mariée et non une esclave. Je prends Allah à témoin de ce que je dis. Vous avez sans doute une mère, une femme, une sœur ou une fille qui porte le voile comme moi. Si quelqu'un avait à leur égard la moindre mauvaise pensée, vous vous sentiriez offensé. Vous ne toléreriez pas un tel affront. Non, s'exclamèrent les marins. Ce marchand qui se trouve à mes côtés m'amène de force je ne sais où. Et de plus, il ne me respecte guère. Aidez-moi. Je vous en conjure. J'ai besoin de votre protection. Je suis pauvre, humiliée, malheureuse. Ne me laissez pas souffrir davantage. Elle leur raconta ensuite sa triste aventure. Devant la noblesse de ses paroles, les marins l'arrachèrent aux marchands et devinrent ses protecteurs. Mais quiconque entrevoyait son visage en tomber éperdument amoureux, tout l'équipage finit par s'éprendre d'elle. De nombreux marins souhaitaient l'épouser et des rixes s'éclataient sans cesse entre eux. Réalisant qu'elle ne pourrait échapper à son triste sort, la jeune femme se mit à implorer le ciel. Ô toi qui connais tous les secrets des hommes! Préserve-moi de leur méchanceté. Fais qu'ils renoncent à leur folie. Je n'ai vraiment plus la force d'endurer cette épreuve. » Après ces paroles, elle s'évanouit. Alors, la mer devint houleuse. Des flammes embrasèrent les flots. Et d'immenses vagues déferlèrent sur le bateau. L'équipage tout entier fut projeté par-dessus bord dans le feu. Tous les hommes brûlèrent et la jeune femme se retrouva seule. Lorsqu'elle eut repris ses esprits, le navire arrivait en vue d'un port. Afin d'éviter de nouveaux ennuis, elle décida de se déguiser en homme et fouilla les cabines à la recherche d'un costume masculin. Elle enfila une longue tunique beige et remonta ses longs cheveux qu'elle dissimula sous un turban. Les hommes qui travaillaient sur les quais furent très surpris de ne voir qu'un seul passager sur un aussi gros bateau. Ils amarrèrent le navire, puis interrogèrent la jeune femme, qu'ils prenaient tous pour un bel adolescent. « Je ne conterai mon histoire qu'au roi, » répondit-elle. Elle fut conduite jusqu'au palais royal. Le roi, qui pensait lui aussi se trouver en présence d'un adolescent, l'interrogea à son tour. « Raconte-moi ton histoire, au jeune homme, » lui dit-il en souriant. La jeune femme déclara qu'à la suite d'une tempête de feu, tout l'équipage avait disparu et que le vent avait ensuite poussé le bateau jusqu'au port, sans qu'elle y comprît rien. Allah m'a préservé de la tempête, ajouta-t-elle. Pour le remercier, je souhaiterais dorénavant me consacrer à la prière. Prends donc, ô majesté, toute la cargaison du navire, qui a une énorme valeur. En échange, donne-moi une modeste maison, de préférence très isolée, où je vivrai en ermite. Le roi accepta et lui donna une maison en pisée, située en bordure du désert. La jeune femme s'y retira. Elle n'en sortait que pour puiser de l'eau, se consacrant jour et nuit à la prière. Quelques mois plus tard, sentant la mort approcher, le roi convoqua ses ministres. Comme vous le savez, leur dit-il, je n'ai pas de fils et mon seul frère est décédé. Je n'ai donc aucun héritier. Aussi ai-je décidé que le jeune ermite auquel j'ai donné une maison serait mon successeur. Dès qu'il m'aura remplacé, obéissez-lui fidèlement, comme vous m'avez toujours obéi. Je suis persuadé qu'avec lui régneront justice et bien-être. Voici mon testament. Veillez à ce qu'il soit fidèlement exécuté. » Le souverain s'éteignit doucement et fut enseveli. Les ministres se rendirent ensuite en délégation chez l'ermite. Ils racontèrent à celle que tout le monde prenait toujours pour un jeune homme que le roi, avant de mourir, l'avait désigné pour lui succéder. Tu peux dès maintenant donner les ordres que tu voudras, ô majesté, ajoutèrent-ils. La jeune femme ne souhaitait guère une telle charge. Un ermite, dit-elle, ne peut devenir roi. Accepte la charge royale, supplièrent-ils, car c'est toi, l'ermite, qui a été désigné pour monter sur le trône. Puisque je ne puis refuser, je vais m'installer au palais royal. La solitude commençait à me peser. Les ministres en déduisirent que l'ermite souhaitait se marier. Ils s'empressèrent de lui envoyer le jour même les plus jolies de leurs filles. La jeune femme les observa en souriant et toutes baissèrent pudiquement les yeux. Puis elle défit lentement ses longs cheveux et leur révéla son secret. Le trône peut-il convenir à une femme? Questionna-t-elle. Allez, rapportez à vos pères ce que je viens de vous apprendre et dites-leur que je souhaite être délivré de ce pesant fardeau. Stupéfaites, les jeunes filles quittèrent le palais et informèrent leur père. Les ministres furent frappés d'étonnement en apprenant une telle nouvelle. Ils se concertèrent et envoyèrent ce message au palais royal. Puisque tu es notre roi, désigne quelqu'un pour te remplacer ou bien conserve ta charge et assume-la en homme. La jeune femme nomma régent, celui qui avait été grand vizir sous le précédent règne. Et elle retourna à sa vie d'ermite. Elle fut bientôt très connue car des conteurs disaient son histoire sur toutes les places publiques du royaume. Ils l'enrichissaient sans cesse de nouveaux détails, racontant que la jeune femme possédait des pouvoirs merveilleux et guérissait les malades. Durant ce temps, le mari de la jeune femme rentrait de son pèlerinage à la Mecque. Arrivé chez lui, il ne retrouva pas son épouse. Surpris, il s'enquit d'elle auprès de son frère, qui était devenu aveugle et paralysé. Durant ton absence, ta femme a commis l'adultère, lui répondit celui-ci. La chose doit te paraître surprenante, pourtant, quatre hommes témoignèrent l'avoir vue. Après les avoir entendus, le cadi l'a condamné à être lapidé. Le malheureux époux tomba dans un accablement profond, se désolant de la faute et de la disparition de sa femme. Il pleura longuement, se frappa, puis se retira pour prendre le deuil. Au bout de quelques semaines, s'étant résigné à son triste sort, il songea à venir en aide à son frère. En revenant de la Mecque, lui dit-il, j'ai entendu parler d'une femme dont les prières sont toujours exaucées. Des aveugles auraient retrouvé la vue grâce à elle, et des paralytiques, l'usage de leurs membres. Si tu veux, je t'emmènerai auprès d'elle. Peut-être pourra-t-elle te guérir. Oui, s'écria l'infirme. L'homme installa son frère sur un âne et se mit immédiatement en route. Le hasard voulut qu'à la nuit tombante, il arriva près de chez Baha. Dès qu'il l'aperçut, ce dernier lui offrit l'hospitalité. « Qui transportes-tu ainsi ?» demanda Baha en l'aidant à faire entrer l'âne dans son jardin. Mon pauvre frère qui souffre de cécité et de paralysie. En revenant de la Mecque, j'ai entendu parler d'une ermite qui guérit les malades. Peut-être la connais-tu ? Non, Hajj, dit Baha. C'est chez elle que je conduis mon frère. Puisse-t-elle l'aider ? Inch'Allah, dit Baha. J'ai un esclave qui souffre des mêmes maux que ton frère. Je vais faire comme toi. Peut-être les implorations de l'ermite le guériront-elles. À l'aube, le lendemain, ils partirent ensemble et voyagèrent longtemps avant d'arriver dans le village même où un jeune homme avait failli être pendu pour ne pas avoir payé ses impôts. Par hasard, ils demandèrent l'hospitalité dans une maison appartenant à ce dernier. Lorsqu'elle vit les deux infirmes, la mère du jeune homme se mit à pleurer. « Mon fils est dans le même état qu'eux, » dit-elle. « Mais où les conduisez-vous ainsi ?»« Un endroit où ils pourront peut-être guérir. » »« Je vous suivrai donc avec mon fils, » dit la femme. Le lendemain, elle l'installa sur un chameau. Et les trois couples voyagèrent ensemble durant une semaine. Un matin, ils arrivèrent en vue de l'ermitage. L'ermite venait de se lever et elle puisait de l'eau. Elle reconnut de loin son mari. Troublée, elle se demanda comment il pouvait se trouver là. Puis une joie indicible s'empara d'elle. Le visage voilé, elle s'avança vers les visiteurs. C'est alors qu'elle reconnut ses trois ennemis mortels. « Dis-moi ce qui t'emmène, ô visiteur, » demanda-t-elle à son mari. « Je souhaiterais que tu guérisses mon frère, » répondit l'homme sans l'avoir reconnu. « S'il avoue ses fautes, il sera délivré de ses maux, sinon il ne guérira jamais. » « Avoue tes fautes, malheureux, si tu ne veux pas rester infirme, » dit l'homme. « Non, » répondit son frère. Tout le monde parlementa avec lui et il finit par raconter ce qu'il avait sur la conscience. « C'est en punition d'un tel crime, » ajouta-t-il, « que je suis impotent et aveugle. Maintenant, ô Hajj, tue-moi ou accorde-moi ton pardon. » Sans hésiter, le saint homme pardonna à son frère. La jeune ermite pria et l'infirme retrouva la vue ainsi que l'usage de ses membres. Vint le tour de Baha, qui demanda à son esclave de reconnaître ses fautes. C'est impossible, déclara l'esclave. Je préfère rester infirme. « J'exige la vérité, » dit Baha. L'esclave finit par confesser son forfait. « Pardonne-moi, ô maître, d'avoir lâchement agressé ton jeune fils, » conclut-il en pleurant. « Oui, » dit Baha. La jeune ermite pria aussi pour l'esclave et il guérit. La vieille femme avança alors avec son fils et celui-ci reconnut ses fautes. « Une femme, » raconta-t-il, vint à mon secours et m'arracha la potence. En guise de remerciement, je la fis passer pour mon esclave et la vendis à un marchand. Misérable ! S'exclama la mère. À nouveau, l'ermite pria et le jeune homme fut à son tour guéri. L'ermite demanda alors à son mari de la suivre. Elle le fit entrer dans sa maison et se dévoila sans attendre. À la vue de son visage, celui-ci poussa un cri et s'évanouit. Lorsqu'il eut repris connaissance, la jeune femme s'approcha de lui. « Que t'est-il arrivé pour t'évanouir ainsi ?» lui demanda-t-elle. « Il m'a semblé retrouver mon épouse en te voyant, » répondit-il. « Ton visage ressemble étrangement au sien. Si elle n'était pas morte, je t'aurais prise pour elle. » « Réjouis-toi, » dit l'ermite. « Ta femme n'est pas morte. Je suis ta femme. » Fou de joie, il se précipita vers elle et l'étreignit longuement. Puis elle lui conta son histoire. Ils sortirent ensuite pour rejoindre les autres. Le jeune homme, l'esclave noir et le frère manifestèrent une certaine confusion en reconnaissant le visage de leur victime. Tous trois tombèrent à genoux et implorèrent son pardon. « Ne vous ai-je pas déjà pardonné ?» leur dit-elle, en acceptant de prier pour vous guérir. La jeune femme nomma alors son mari roi, tandis que le régent retrouvait sa place de grand vizir. Elle donna de nombreux biens à Baha et abandonna sa vie d'ermite pour vivre aux côtés de son mari. Merci et à bientôt dans la quatrième dimension.